Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Bienvenue sur le média Radio Boxe Attitude. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast qui va être un bilan. On va revenir sur les 6 dernières années, parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 ans? On a eu les Rio 2016, qui a été, bon, pour tout fan de boxe à cette époque, un moment historique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Nicolas, j'ai découvert sa page Instagram. Je me suis régalé devant ses posts et du coup, on a un petit peu échangé. Et je lui ai dit, allez, viens, viens, on va faire un petit sujet ensemble, on va faire un petit podcast. Et il a dit, OK, je suis chaud. On s'est mis d'accord sur un sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de la Team Solide et notamment, on va finir bien sûr avec le combat qui arrive ce week-end. Une très très belle affiche, bien sûr, Usyk, Joshua 2 et en sous-carte. On aurait dû avoir 3 Français, on va en reparler, tous de la Team Solide, mais il n'en reste plus qu'un. Et quel combat? Alors attention, on réserve ça pour la fin. Quel combat, Mathieu Boderly contre Callum Smith? Nicolas, présente-toi rapidement et surtout présente ta page.
Ouais, alors salut à tous. Donc Nicolas, comme JC l'a dit, donc NC Media Box sur ma page qui a à peu près 6 mois d'existence maintenant à peu près, donc depuis décembre 2021. Donc c'est un petit peu mettre en avant la lumière sur les boxeurs français, sur leur actu, sur les échéances à faire et l'actualité par rapport à leur classement, les combats à venir, où ils en sont, et puis essayer de leur apporter une visibilité pour le grand public.
Une très bonne page, franchement, tu gères bien. J'aime beaucoup tes articles. Voilà la mise en avant que tu fais, c'est vraiment top. C'est qualitatif, c'est propre. Et donc, c'est pour ça que j'invite les gens à aller rejoindre ta page. Alors, le sujet du jour, Nicolas, déjà, rien que comme ça, Team Solide, toi, ça t'évoque quoi?
Forcément Rio 2016, les médailles, l'engouement, Tony Yoka, Christian Billy, Souleymane Sissoko, ben tous ces boxeurs-là qui ont redonné un élan à la boxe par rapport aux audiences, aux salles qui ont été remplies aussi en France. Je pense il n'y a pas que Tony Yoka qui a rempli dans les salles, et Christian Billy aussi qui a été en main event chez Assume Event, Eli Conky aussi qui a fait
Tout à
pas mal
fait.
de combats à l'Union européenne, les ceintures WBA intercontinentales. Donc
Ouais.
c'est les événements, c'est on va dire c'est le nouvel élan qui a été donné à la boxe, et maintenant ils sont vraiment pas loin des grosses échéances. Donc c'est l'heure de faire un bilan, je pense.
Ouais, donc je vais revenir sur chaque nom. Avant ça, vraiment, je voudrais que tu essaies de te rappeler 2016, quel âge t'as, est-ce que tu suis autant la boxe qu'aujourd'hui? Dans quel état t'étais à ce moment-là, toi?
Alors, 2016, c'est vrai que je commençais un petit peu à suivre la boxe, mais je suivais déjà un petit peu la boxe, mais la boxe en France était un petit peu morte. On n'avait pas forcément de grands noms, puisqu'on a eu Jean-Marc Mormeck, qui est vraiment la dernière grosse star, et surtout boxé en France, parce qu'après Sanhedrin, il boxait surtout à l'étranger. Et Mormec a eu son combat face à Klitschko en 2012, puis après il a essayé de revenir, il a fait seulement 2 combats, et on n'avait pas vraiment eu de grosses têtes d'affiche, même si on a eu quand même des bons boxeurs, comme Cédric Vitu par exemple, qui a rempli des salles, des championnats d'Europe, etc. Donc c'est vrai que Rio, ça a vraiment donné un grand espoir pour la suite, surtout pour la boxe en France. Et surtout pour l'après Rio tout de suite, puisqu'ils ont tout signé normalement à peu près des gros contrats avec des gros promoteurs. On a vu par exemple Christian Billy qui avait signé au Canada, Mathieu Bodalic aussi, Tony Yoka avec Richard Schaeffer. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé par la suite, mais c'était vraiment, on va dire, un nouvel élan pour la boxe en France. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu des failles, tu vois, sur la façon dont c'était géré un petit peu.
N'hésitez pas à dire dans les commentaires un peu comment vous avez vécu Rio 2016. Alors moi, j'étais dans le même état que toi, c'est-à-dire que, bon, la boxe, je suis un passionné, donc je suivais. J'ai commencé ma chaîne 1 an avant. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Voilà, les gens ne parlaient pas beaucoup de boxe. Et puis Rio, ça a mis de la lumière. Et moi, je l'ai vu, hein, clairement, les gens qui ont commencé à s'intéresser à mon travail, commencer à suivre les boxeurs, à commencer à me parler de Tony Yoka, etc. Avec Estelle Mosselli en même temps, tu vois, c'était un peu le couple en or. Donc oui, il y a eu un vrai engouement qui arrivait à ce moment-là. Et les Français se sont réintéressés à la boxe. Salut, Faudier qui est avec nous. Voilà, t'es le premier. Alors, on va faire... Nom par nom, ok? Et donc je les ai classés. Et après tu me diras, toi, qu'est-ce que tu penses de mon classement? Alors, honneur aux filles. Tu m'entends, Nicolas?
Oui, bien sûr.
Ouais, comme il y a eu un bruit, j'ai cru que je t'avais perdu. Alors, je vais d'abord parler des filles. Alors là, c'est pas vraiment par rapport au classement, c'est honneur aux filles. Donc, on avait Sarah Ourahmoune, qui a aujourd'hui 40 ans, qui a fait médaille d'argent à Rio 2016, et elle a pris sa retraite après ça. Bon, pour elle, c'était déjà un exploit d'avoir fait ça parce que elle était déjà âgée à ce moment-là, elle avait déjà été maman, elle avait décidé de reprendre la boxe parce que enfin les filles pouvaient participer aux JO. Donc, elle avait sa chance. Donc, elle a tenté sa chance. Et puis, elle est allée jusqu'à la médaille d'argent. Donc, assez exceptionnel quand même ce qu'elle a fait. Et par la suite, elle a donc arrêté sa carrière sportive, mais elle est restée dans le domaine du sport. Elle a notamment écrit un livre sur son parcours. Elle a travaillé pour la fédération. Bon, après, tout ce qui est un peu politique, mais lié toujours au sport. Donc, elle a fait un vrai travail, mais plus du côté administratif, on va dire. Pour moi, Sarah Ourahmoune, c'est un véritable exemple de réussite, de persévérance. Vraiment, voilà, je la trouve assez exceptionnelle. Très bonne boxeuse. Mais du coup, on va pas vraiment du coup tirer un bilan sur ces 6 dernières années parce que elle s'est retirée. Un petit mot sur Sarah?
Non, franchement, t'as tout dit. Je crois qu'elle a aussi une salle à Paris, je crois, une salle de boxe.
Ouais,
Ouais.
exactement.
Après, c'était vraiment un parcours sur le plan amateur qui s'est vraiment très bien conclu. Une médaille d'argent olympique, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, c'était vraiment, ouais, plutôt un parcours amateur. Il n'y a pas vraiment eu d'ambition professionnelle par la suite.
Tout à fait. Alors, Estelle Mosselli, là pour le coup, on est sur un autre profil. 29 ans aujourd'hui, elle a fait or au JO. Elle est toujours invaincue, j'espère pour elle le plus longtemps possible. 10 victoires, un seul remporté par KO. Elle est aujourd'hui deuxième mondiale chez Boxrec. Elle a un titre IBO des poids légers. Et elle a fait tous ses combats en France, sauf un combat à Dubaï, son dernier combat. Bon, le petit problème qu'a Estelle, c'est que sa catégorie, elle est fermée par Katie Taylor, qui a tous les titres. Alors, je te laisse dire, Nicolas, un petit mot sur Estelle Mosselli.
Oui, donc pour l'instant, comme tu l'as dit, un parcours sans faute sur le plan professionnel, que des victoires. On l'a vu boxer, c'était pas mal quand il boxait avec elle boxait, elle boxait pardon, avec Tony Oka sur les mêmes cartes en 2021. Après, bon, il y a eu la rupture qui a fait que bon, c'est un point personnel. Oui, donc un très bon dernier combat, je crois que c'était à Dubaï, c'est ça, dans son dernier combat.
C'est ça, c'est ça.
Donc toujours championne du monde IBO, même si c'est un titre mineur. Je pense qu'elle attend vraiment les grands combats comme tous les autres de la team solide pour pouvoir step up. Et pourquoi pas prendre Katie Taylor? Je sais qu'il y avait déjà eu des négociations depuis l'année dernière. Ça s'est pas fait finalement. Donc, ouais, hâte de la voir forcément au plus haut niveau. Pourquoi pas face à Katie Taylor? Peut-être en 2023, sûrement. Parce que là, elle est en promotion avec Richa Schaeffer maintenant. Donc, peut-être qu'il va lui apporter des gros combats pour la suite. Le reste, j'ai cru comprendre qu'elle voulait faire aussi les JO 2024. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer sur le plan professionnel avec elle par rapport à la sélection olympique. Donc, à suivre. Il n'y a pas trop de communication là-dessus, donc on n'en sait pas plus.
Alors, il y a juste Faudier qui nous dit elle n'est pas championne. Alors attends, je te montre le message, hein, comme ça tu le vois aussi.
Oh,
Elle n'est pas championne, elle n'a pas fait de combat contre des grands noms. Alors bien sûr, j'ai dit elle a un titre IBO. Hein. Je précise, hein, je n'ai pas dit qu'elle était championne du monde. Et j'ai précisé que c'est Katie Taylor qui a toutes les ceintures des 4 fédérations majeures. Donc ben, tu as fait une très très bonne analyse. Et puis tu as rajouté, bien sûr, sa relation avec Tony Yoka, cette séparation. Moi, je pense que Estelle, elle souffre de deux choses. D'être dans la catégorie avec la meilleure boxeuse qu'on ait peut-être jamais eue dans la boxe anglaise, c'est-à-dire meilleure déjà en termes de qualité sur le ring, mais aussi médiatiquement, c'est peut-être la première grande star de la boxe féminine qu'on a. Et malheureusement pour Estelle, elle tombe dans la même génération. On sait qu'elle l'a affrontée plusieurs fois en amateur et elle a quasiment à chaque fois perdu, hein, sur, je crois, les 4 ou 5 fois qu'elles se sont rencontrées dans
exactement.
des.
Affrontement
Ouais.
au monde amateur 2016, juste avant les JO. Donc il y a une petite
C'est
histoire.
ça.
Bon, c'est Katie Taylor qui est un petit peu au-dessus en amateur.
Voilà. Et donc, elle souffre aussi d'être dans l'ombre de Tony Oka, qui est devenu bon, bah, voilà, le phare un peu dans les médias et même auprès du public français. Donc, il a un peu, c'est vrai, fait de l'ombre à tous les autres boxeurs de sa génération pour un bien et pour un mal. Voilà. Et donc, peut-être que Estelle Mosselli, elle a aussi souffert un petit peu de ça. Disons que ça lui a fait de la pub au début, parce que je pense qu'on n'aurait pas autant parlé d'elle. Même avec ses médailles d'or, s'il n'y avait pas le couple en or, parce que c'est vrai que ça a fait la belle histoire. Mais aujourd'hui, elle a besoin de se créer sa propre histoire, sa propre identité.
Ouais, surtout que
Nicolas.
je pense qu'elle va se tourner vers l'étranger maintenant, des combats aux États-Unis ou en Angleterre, je pense, maintenant qu'on la verra pas trop en France, je pense.
On passe au garçon? Alors, au plus bas de ma liste, j'ai mis. Alors non, attends, j'ai changé. Je vais mettre Paul Omba Biongolo. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé. Il a 26 ans. Alors lui n'a pas fait de médaille et il est resté en amateur. Donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire du coup parce que comme il n'est pas passé pro, on ne peut pas tirer un bilan de ce qu'aurait pu lui apporter le fait d'être venu de la team solide. Et aujourd'hui, un peu ce que ça fait. Donc pour le moment, il a décidé de rester dans sa carrière amateur. Si tu as envie de dire un petit mot, moi j'ai rien de spécial à ajouter.
Non, moi non plus. Donc, je pense qu'il vise aussi Paris 2024, sûrement, s'il est toujours resté en amateur. Donc, sinon, pas grand-chose à dire là-dessus.
Il n'était pas qualifié, je crois, pour Tokyo, hein. Je me
Non,
rappelle pas. On avait... Non.
il n'était pas, non.
Ensuite, Hassan Hamzidi. Alors lui, il a 34 ans. Il est invaincu chez les professionnels avec 4 victoires, une remportée par KO. Il est 116e mondial chez les super légers et il a quand même obtenu le titre de champion de France des super légers. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Hassan?
Ouais, donc c'est un super boxeur, même s'il a un âge avancé, 34 ans, quand même champion de France. Je crois qu'il s'entraîne aussi dans de très bonnes structures avec Franck Petitjean à Levallois. Ils sont pas mal, où il y a pas mal un pôle avec aussi Cédric Doumbé qui s'entraînait pas mal, plutôt pour les MMA, le kickboxing. Il y a aussi Bilal Chkitou qui faisait des sauts là-bas. Donc c'est un très bon boxeur en devenir. Je pense que maintenant il faut qu'il enchaîne, il faut qu'il trouve vraiment des propositions pour monter encore plus dans les classements et pourquoi pas faire un championnat de l'Union européenne ou des titres mineurs pour gagner en visibilité et monter encore plus dans la hiérarchie.
Malheureusement pour lui, il n'a pas su vraiment profiter de la lumière apportée par la Team Solide. Je ne crois pas qu'il ait fait forcément de gala où il y avait les têtes d'affiche dont on va parler un peu plus loin. Donc, il fait plutôt une carrière pour l'instant dans l'ombre. En fait, j'ai envie de te dire une carrière classique de boxeur français.
Ouais, clairement.
Ensuite, Sofiane Oumia. Alors, pourquoi il est si bas, entre guillemets? Donc, il a 27 ans aujourd'hui. Il est invaincu chez les professionnels avec 2 victoires. Une remportée par KO. Il était argent au JO. Mais ce qui est particulier avec Sofiane, c'est qu'il a décidé de rester chez les amateurs. Il était frustré par ce truc de ne pas avoir eu la médaille d'or. Donc il s'est dit, moi je repars et je vise Tokyo 2020. Mais comme vous le savez, bon, l'année d'après, il assure avec un championnat du monde où en 2017 où il devient champion du monde à Hambourg, des amateurs. Mais après, c'est la galère. Après, c'est le Covid. C'est les JO, on ne sait pas s'ils vont avoir lieu, ils sont reportés, finalement il faut attendre. Et alors là, encore plus la catastrophe, il participe aux JO de Tokyo, c'est la pire, c'est la pire aventure pour les Français, et lui sort sur un KO. Alors là, pour avoir discuté un peu avec son entourage, ils ne voulaient pas rester sur ça, et ils ont décidé de s'engager encore en amateur et d'aller chercher un titre de champion du monde amateur en 2021 à Belgrade, histoire de sortir par la grande porte et pas rester sur cette image du chaos. Et il est allé chercher le titre de champion du monde en 2021 à Belgrade. Un petit mot sur Sofiane Oumia.
Alors, Sofiane Oumia, c'est incontestablement l'un des plus beaux palmarès de la boxe amateur en France. Franchement, vice-champion olympique à Rio, double champion du monde. Alors, Sofiane Oumia, bon, là, il débute, il a 2 combats, mais son deuxième combat à Bercy était vraiment très intéressant face à Mehdi Boudi. On a vu qu'il a dominé pendant 8 rounds, quand même, face à un adversaire vraiment de niveau national. Donc, on sent qu'il est bien. Après, il y a 2 choses qui m'embêtent un petit peu chez Sofiane, c'est sa catégorie. Donc, c'est-à-dire qu'il va être, je crois qu'il est chez les 61, c'est ça? Donc, on sait qu'elle est
Eh ben,
super.
il y a Faudier qui nous le précise là. C'est vrai, quand il fait la médaille d'argent, il est à moins de 60. Et puis après, ils ont modifié les catégories. Et puis il était en moins de 63,5. C'est peut-être ça qui lui a aussi. Où il a laissé un peu des plumes avec ce changement de caté. Et donc lui, il boxe en léger, lui. Il boxe en léger. Donc la catégorie de Loma, Teofimo. Enfin, Teofimo, il est monté. Mais tu vois, toute cette génération-là.
Donc elle est bouchée cette catégorie clairement entre je crois qu'il y a la revanche en plus entre David Haney et Gambozos en octobre en novembre. Le vainqueur devra prendre Loma. Derrière, il y en a d'autres qui vont monter, à savoir Gervonta, on ne sait pas trop ce qu'il va faire dans la catégorie. Peut-être que Shakur Stevenson va monter aussi. Teofimo, Ryan Garcia, ils vont peut-être descendre, remonter, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Donc ça est vraiment bouché pour l'instant. Donc après, d'ici là, d'ici le championnat du monde, je pense que Sofiane Oumia et son entourage, ils vont voir un peu comment, quelle catégorie ils vont cibler, s'il faut être en 64, 61 ou même descendre. D'ici là, je pense qu'il y aura encore quelques combats à faire, notamment peut-être la case européenne, à cibler. Pour l'instant, il n'y a que 2 combats, donc c'est un petit peu tôt pour envisager des gros gros combats, c'est sûr, mais je crois qu'il est aussi en copromotion avec Frank Warren, si je dis pas de bêtises, normalement. Donc peut-être beaucoup combattre en Angleterre. Peut-être, ça va lui permettre une bonne visibilité de combattre sur des grosses cartes. Donc, c'est un petit peu tôt pour l'instant pour se projeter sur Sofiane Oumia, mais en tout cas, l'avenir est devant lui, ça c'est sûr.
Non, c'est sûr qu'il a une catégorie fermée, comme tu l'as dit, et surtout, c'est que des stars. Donc, pour aller se faire une place là, on a bien vu, on a Ivan Mendy. Ivan Mendy, qui malgré qu'il était souvent dans le top 10 ring, bah, il n'a jamais eu sa chance pour un championnat du monde parce que c'est une catégorie hyper fermée. Il n'y a que des stars, c'est très très compliqué de faire sa place. Hein.
Ça c'est sûr. Et pourtant, il avait battu Teofimo à Rio. Je sais pas si
Et
tu te rappelles.
oui, bien sûr. C'était le dernier combat amateur de Teofimo. Après, Teofimo, il est passé chez les professionnels. Et là, on voit comme la différence parce que entre Sofiane, qui a obtenu une médaille, et Teofimo, qui est parti sans médaille et qui a décidé de passer pro. Mais regarde, lui, l'ascension fulgurante depuis Rio. Il devient champion du monde, il unifie les ceintures, il perd les titres, il change de caté et là, il part pour l'ascension d'une nouvelle catégorie. Regarde Shakur Stevenson, il a déjà été champion du monde dans deux catégories de poids. Donc c'est vrai que là, on se dit. Sofiane, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu de temps, c'est vrai quand même, à s'acharner à vouloir des titres en amateur? C'est un peu le regret qu'on pourrait avoir.
Ça, c'est sûr. Mais je pense que, tu vois, à la différence, c'est ce que disait même Tony Oka auparavant dans son interview, Sofiane Ouimet, c'est le genre de mec, par rapport à son background en amateur, où il n'aura pas forcément besoin de faire 20 combats chez les pros pour avoir le championnat du monde. Je pense qu'au bout de 8-9 combats, peut-être qu'il pourrait être prêt éventuellement s'il y a une opportunité. 7-8 combats,
D'accord.
même, ça pourrait aller vite.
Je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur la réflexion sur dans quelle catégorie il doit évoluer. Je pense que c'est vraiment une question qui doit se poser. Alors, je ne le vois pas aller au 64, comme tu l'as dit,
Trop
parce
chaud.
qu'il galérait déjà un petit peu au 63 en amateur. Donc, peut-être en super plume, à voir. Ça, c'est lui qui va le décider. On passe à Illy Conky. 30 ans, 13 victoires, une seule victoire remportée par KO, une défaite aujourd'hui qu'il a eue cette année. Il a été champion de France en 2018 et champion de l'Union européenne en 2019. Alors, Illy Conky, il fait partie un peu de ces boxeurs. Quand je vous disais, vous verrez dans le titre, du coup, enfin, vous l'avez déjà vu dans le titre, échec ou réussite, la team solide, ben, il fait partie un peu des petites désillusions parce que pour moi, c'était un très beau parcours, c'est-à-dire qu'il enchaînait les titres, vraiment un parcours intelligent, je vois, on monte, parce que lui, il n'a pas de médaille, donc il n'a pas eu cet élan de la médaille olympique. Donc, il a dû faire un parcours où voilà, il va chercher les titres, il montre doucement son palmarès. Et je trouvais que s'il le faisait très très bien, et puis est arrivé Loïc Tajan, qui lui a infligé un terrible KO. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas.
Ouais, bien sûr. Ouais, malheureusement. Donc, tant mieux pour Luc Dagen, mais c'est vrai que c'était un peu dur pour Eli Conky.
Non, ben c'est la boxe, hein, c'est la boxe. Mais je veux dire, juste quand on prend du recul sur cette team solide, il fait partie de cette année-là, les petits coups durs. Voilà.
Ah, mais le problème sur Eli Conky, je pense, il n'est pas sur le plan de la boxe, il est vraiment sur le plan de la gestion de carrière. On voit que depuis 2020, il a plus trop de promoteurs. On ne sait plus trop dans quel sens ça va, même s'il vise forcément l'Union européenne, le titre européen, pardon, où il est numéro 1. Mais les derniers combats qu'il faisait, souvent, c'était dans des petits galas, c'était pas forcément dans des galas télévisés, alors qu'on avait l'habitude de le voir boxer, par exemple, dans les réunions de Tony Hawk sous les Matisseco, les épisodes de la conquête, on le voyait boxer dans les cartes de Brahim Asloum. Donc il y avait vraiment, comme tu l'as dit, une progression linéaire, championnat de France, championnat de l'Union européenne, WBA intercontinental, il était classé encore récemment en IBF, en WBA. Et on voit que depuis le Covid, depuis 2020, il fait des combats, mais qui ne lui rapportent pas forcément beaucoup d'argent, qui ne lui font pas forcément monter dans les classements. Le combat face à Loïc Tajan, il n'avait rien à gagner à accepter de faire ce combat-là. Donc le problème a surtout été sur le plan de la carrière. Il n'y a vraiment eu personne pour l'accompagner au plus haut niveau, comme d'autres ont pu s'accompagner, je pense. On reviendra après plus tard, mais Sofiane Oumia, il est chez Frank Warren, Souleymane Sokho chez D-Earn. Tony Oka chez Top Rank, ils ont vraiment un accompagnement et Illy Conky, c'est vraiment dommage. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec le promoteur Jérôme Habitbull, pourquoi ils sont plus ensemble, on ne sait pas trop. Après, est-ce que lui ne veut peut-être pas forcément aller à l'étranger, chez un promoteur américain ou anglais, donc c'est vraiment dommage. Mais après, il est numéro 1 EBU, donc il pourrait faire un championnat d'Europe prochainement.
Tout à fait, tout à fait. Alors juste, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit et je vais m'appuyer sur ce que dit Faudier. Faudier, il fait presque partie de la vidéo là. Surtout dans sa catégorie Inoue Donner. Alors justement, je voudrais parler de sa catégorie parce que tu as dit, tu savais pas trop ce qu'il avait à gagner à affronter Loïc Tajan. Bon, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est les poids coqs. Les poids coqs, si tu prends la France, il n'y a pas beaucoup de boxeurs. Donc tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois affronter les boxeurs qu'il y a. Et le truc, c'est qu'on a quand même un bon niveau, c'est-à-dire qu'on avait Karim Garfi champion d'Europe, on avait Nordine Noubali champion du monde, donc, on avait quand même des, malgré qu'il y ait, je crois qu'ils sont même pas 10 professionnels en France,
Champion
mais
d'Europe
le
après.
niveau est très. Je t'ai pas entendu, excuse-moi Nicolas.
Legrand qui était champion d'Europe aussi avant, qui naviguait un
C'est ça?
peu dans Vincent Legrand, qui a
Ouais.
affronté Grégor il n'y a pas longtemps. Là, tu vois, par exemple, McGregor et Lee Conquis, c'est un combat que j'aurais aimé voir, mais il aurait fallu avoir l'appui d'un promoteur pour Lee Conquis. Très clairement.
À fait.
Parce
Tout
qu'en
à
face,
fait.
il y a MTK et c'est pas les mêmes négociations.
C'est vrai, c'est vrai. La difficulté des boxeurs français, elle est là, hein, clairement. Avoir promoteur qui a les épaules pour te mener une carrière jusqu'à ce que t'arrives au championnat du monde. Après, il est conquis, il a quand même bien géré son après Rio, parce que je rappelle que lui n'a pas eu de médaille, mais comme tu l'as bien précisé, il a été à des grandes soirées qui avaient l'éclat des Jeux de Rio avec des grands noms comme Mbili, comme Sissoko et Tony Oka. Et lui, il a quand même su bien profiter de ça pour mener à bien sa carrière. Et même s'il n'a pas de promoteur fixe avec qui ça se passe, ça roule, il a quand même une bonne team avec BAM l'Hermitage ou l'Héritage, je ne sais plus, j'y suis allé en plus, je ne me rappelle plus exactement du nom. Pardon?
Les frères Alab, ouais, avec Zacharie et
Les frères
Atlus.
Alab, exactement. Et c'est vrai que là-bas, quand même, ils prennent. Il s'occupe bien de lui. Donc au moins, il a quand même ça pour lui.
Ouais. Après, ça reste un super boxeur, honnêtement. Il a largement le niveau pour un championnat d'Europe s'il le fait en fin d'année. Techniquement, il est très très fort. Et comme tous les gens de son club, techniquement, ils sont super forts là-bas.
Ouais. Non, 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 il y a Mani Noribumai qui se fout de moi, il dit l'héritage, c'est l'ermitage. Hein, ouais. C'est BAM l'ermitage. Mais c'est vraiment des. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là-bas avec leur club et tout, leurs boxeurs. J'aime bien l'atmosphère qu'ils ont réussi à créer. Donc, en tout cas, je leur souhaite le meilleur. On passe au suivant? Ou tu veux rajouter un petit mot sur Elie Conky?
Non, c'est bon pour les conquis. Un très gros club encore. Je sais qu'il y a Taylor Lapillus qui s'entraîne un peu là-bas pour la boxe anglaise. Taylor Lapillus qui sera à l'UFC le 3 septembre, UFC Paris. Damien Lapillus aussi qui va combattre pour le titre à l'Arès en MMA. Comme on l'a dit, Zacharie Atou. Et aussi, il y a Christ Essabé qui est à Bercy pour le dernier combat de Lyoka. Donc, vraiment un très très gros club, pardon. Peut-être même le meilleur en France, clairement. Avec peut-être Faisal Mourani du côté de Lyon avec la team Michel Soro, Dylan Chara. Etc.
Du coup, on passe à Tony Oka, 30 ans, médaille d'or au JO, donc le plus médiatisé bien sûr de l'équipe, qui a signé le plus gros contrat après Rio. Aujourd'hui, il est à 11 victoires, 9 remportées par KO, une défaite qui a eu lieu cette année, à peu près en même temps que pour Elie Conky. Lui, le titre majeur qu'il a obtenu, c'est le titre EBU Union européenne en 2021. Tony Oka, bah écoute, on le présente plus, je te laisse Nicolas en dire un mot.
Ouais, donc par où commencer pour Tony Oka? Déjà, franchement, avant l'épisode bâclé, on savait qu'il y avait beaucoup de critiques sur Tony Oka, mais je trouvais vraiment que son parcours en ce combat était vraiment très en avance par rapport à la moyenne, par rapport aux concurrents. C'est quand même quelqu'un qui a pris des risques dès le début. On l'a vu par exemple prendre dès son deuxième combat Jonathan Rice, qui est maintenant 46e mondial, je crois, sur Boxrec, qui a battu un prospect américain il y a pas longtemps. On l'a vu prendre à son quatrième combat Cyril Lionnet, qui est cinq fois ou six fois champion de France, qui est, je crois, encore champion de France chez les lourds maintenant. On l'a vu prendre David Allen ensuite, qui faisait des sparring avec Tyson Fury, Anthony Joshua et plus récemment Usyk. Donc c'est quand même du lourd. Dimitrenko aussi, il avait pris Andy Ruiz 3 mois avant, il avait fait 5-6 rounds face à Andy Ruiz, et Tony Oka n'a besoin que de 3 rounds. Donc le parcours est très bon. On le voit aussi ce qu'il a fait avec Joanne Duopa, Christian Hammer, le titre européen. Même Petar Milas aussi, c'était un client quand même de Petar Milas, il était quand même invaincu en 15 combats, plus jeune que Tony Oka, il est venu vraiment jouer les troubles faits à Roland-Garros. Et là, il y a eu un peu pas mal de choses qui sont passées, surtout début 2022, entre Carlos Takam, Martin Bacolet, Philippe Ergovic. Il a fait le combat face à Martin Bacolet. Il a montré un énorme courage. Il a été très très vaillant dans ce soir-là, même comme tu l'avais dit dans tes vidéos aussi. Il a été très très courageux, surtout par rapport à l'état dans lequel il est arrivé. Le nez fracturé, une préparation compliquée aux États-Unis. C'était pas forcément le Tony qu'on connaissait. C'était pas le Tony qui était vraiment au top de ses capacités, parce que au top de ses capacités, il est vraiment super fort. C'est quelqu'un, je pense, qui n'a rien à envier au top 10 de la catégorie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à envier à Dillian White, Andy Ruiz. Je sais par cœur tous les autres boxeurs. Donc il y a eu ce couac face à Martin Bacolet. Mais d'un côté, je me dis, c'est forcément Tony qui n'a pas forcément été à 100% ce soir-là. Et Martin, qui a été vraiment très très fort. J'étais dans les tribunes ce soir-là. On entendait les coups de Martin Bacolet. Ça faisait mal, honnêtement. C'était du très très haut niveau. Donc il y a eu ce couac-là qui est vraiment embêtant par rapport au contexte. Puisque je pense que derrière, ça aurait pu être encore plus intéressant. Je pense qu'il aurait pu faire une demi-finale mondiale derrière, éventuellement, si Top Rong irait bien. Donc maintenant, il devrait boxer aux États-Unis, c'est ce qu'a dit son promoteur, probablement en octobre, dans une soirée Top Rank pour se refaire les dents. Donc, je pense que c'est bien pour Tony de pouvoir enchaîner aux États-Unis, de reprendre confiance en lui, de remonter dans les classements. Après, il est toujours 16e mondial sur Boxrec. J'ai vu qu'il était 10e mondial IBF, donc tout peut aller vite. Et voilà, maintenant, il faut gagner. Il faut gagner tous les combats à venir, il ne faut pas se poser de questions. Et prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis après, je pense qu'une grosse échéance, c'est-à-dire un combat comme face à Bacolé, je pense qu'il lui faut encore 3 combats. C'est le temps de bien revenir, de bien se faire les dents aux États-Unis ou en Angleterre. Et puis après, voir ce qu'il y a à prendre.
Ok, très bien. Alors, je vais me montrer un peu critique, d'accord? Tony Yoka, médaille d'or, médiatisation, on n'en parle même pas, le contrat, comme je le disais, comme tu l'as dit, un beau parcours. Voilà, il est vraiment pas honteux, son parcours, pas du tout. Sa défaite n'est pas honteuse non plus. Il a montré des belles choses, mais là, je vais montrer un peu critique. Est-ce que Tony Yoka, qui était la locomotive de la boxe en France, n'est pas aussi un petit peu responsable, alors pas lui directement, mais le Tony Yoka l'image, aussi de la lassitude du public français. Ça fait 6 ans quand même qu'on attend une échéance pour quelqu'un de la team solide, et ça vient pas pour presque personne. Et est-ce que bah, finalement, Tony, qui est, bah, comme on l'a dit, le phare, tu vois, le porte-drapeau, bah, c'est pas lui aussi qui s'est pris toute cette lassitude dans la gueule des gens qui disent, ouais, mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi il est toujours pas allé boxer aux États-Unis? Pourquoi on n'a toujours pas un vrai combat référence? Parce que les boxeurs que tu me cites, c'est des très bons boxeurs. Toi et moi, on sait qu'ils sont bons boxeurs. Mais on ne parle pas d'un combat référence. Bon, pour l'instant, Tony Oka n'avait pas de combat référence. Martin Bacolé, il s'est fait un nom parce qu'il a battu Tony Oka. Il a saisi la chance de sa vie. Et tu vois, ça, on se dit, en 6 ans, c'est quand même un truc qui manque. Et c'est pour ça que là, il y a Fodjé qui a dit qui a fait un très bon commentaire. Il dit, son contrat, il est en or pour un boxeur français, mais un clou dans le pied dans le monde. Tu vois, finalement, ce contrat-là a été un bien d'un côté, parce que sans ce contrat-là, Tony Oka, il se casse de la France. Il plie bagage peut-être en un an. Alors qu'avec ce contrat avec Canal+ et Habitbull, il a quand même fait des galas en France que personne n'a fait. Là, depuis 6 ans, s'il n'y a pas les galas de Tony Oka, il n'y a rien qui se passe en France. Il n'y a pas de gros galas, il n'y a pas de salles remplies, zéro, walou. C'est Tony Oka. C'est pas nos, on a perdu presque tous nos champions du monde, mais c'est pas eux qui faisaient remplir des salles. C'était Tony Oka. Donc ça, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais en même temps, ça a créé cette lassitude. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, bien sûr. Après, je pense honnêtement, pour les gros combats, comme tous les autres membres de la team solide, Tony, je pense qu'il les attendait vraiment. On l'a vu face à Ergovic, il a accepté le combat initialement, la demi-finale mondiale, il était prêt à le faire. Donc, je pense qu'ils attendaient tous. Après, le seul problème, je dirais, par rapport au contrat Canal+, je pense, après, c'est facile de dire ça avec du recul, mais peut-être que dès le début, ils auraient dû signer une copromotion d'entrée. Par exemple, Top Rank et Habitbull, où PBC était intéressé à Laimon, et faire par exemple. Sur une année, 4 combats, 2 combats aux États-Unis, 2 combats en France. Je pense que ça leur aurait permis d'avoir une visibilité. Mais après, si tu regardes aussi sur les concurrents à Rio, par exemple, Philippe Ergovic, Joe Joyce, Daniel Dubois, enfin non, Daniel Dubois n'était pas à Rio, mais Efea Diagba, etc., ils ne sont pas forcément en avance sur le nombre de combats. Joe Joyce, il n'a pas forcément plus fait de combats. On voit que Joe Joyce, même si les challengers, soi-disant les challengers officiels WBO, parce qu'il est numéro 1, il est obligé de refaire un combat encore face à Joseph Parker en septembre. Et maintenant, Joe Joyce, c'est un combat par an. Le dernier combat qu'il avait fait, donc il est passé de Daniel Dubois à Carlos Takam. On critique pas Carlos Takam, mais c'est vrai qu'après Daniel Dubois, son promoteur avait parlé, par exemple, d'un affrontement face à Wilder, d'un affrontement face à Dylan White. Il est un peu redescendu d'un cran face à Carlos Takam. Donc on voit qu'il piétine un peu Joe Joyce. Philippe Ergovic, il affronte. Alors Philippe Ergovic, certes, il fait une demi-finale mondiale la semaine prochaine face à Zhang. Mais je pense que le fait qu'il affronte Zhang, il n'est pas forcément quelqu'un de reconnu, qui est seulement 15e IBF, ça va lui empêcher tout de suite de faire le championnat du monde après. Alors que si, par exemple, il avait affronté un Ortiz ou un Andy Ruiz, là, forcément, il aurait fait le championnat du monde. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus par rapport au mandatory
Ouais.
IBF.
Après, le problème de la boxe, c'est un business, hein, on le sait bien. Donc, s'ils disent demi-finale mondiale, c'est que eux, c'est leurs petits arrangements entre eux. Donc, ça se trouve, ils lui ont promis une chance mondiale derrière. Mais c'est vrai qu'à la place de Zhang, ça aurait dû être Tony Oka, comme tu l'as bien dit tout à l'heure. Tony Oka, il avait cette volonté d'aller chercher des noms. Il avait accepté le défi de Ergovic. Donc, bah, c'est pour ça que je disais qu'on devait avoir 3 Français, parce que Tony Oka, bah, si on imagine que c'était lui à la place de Zhang, parce que c'est Ergovic qui a eu des soucis avec son papa, c'est pour ça que ça a été repoussé. Ça devait avoir lieu il y a un petit moment déjà, bah, à peu près au moment du combat de Bacolé. C'est pour ça que ça a lieu que maintenant. Et puis Argovic n'a pas pu faire le combat pour des raisons personnelles. Et maintenant, c'est là. Donc, on aurait pu avoir finalement Yoka contre Argovic en sous-carte de Joshua Usyk. Ça aurait été complètement fou. Donc, ouais, je te rejoins sur ce point-là.
Après, je me suis même dit, je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive, le vainqueur de Bakole Yoka, je me suis toujours vu le prendre, quoi qu'il arrive, Ergovic en fin d'année pour un titre intérimaire. Parce que je pense qu'Ergovic face à Zhang, ça va pas suffire pour être mandatory. Parce qu'après, il y a les unifications. Shuri qui annonce sa retraite, mais on n'y croit pas trop. Enfin, on sait pas trop comment ça va se passer. Je me suis dit, Martin Bakole, je pense que si j'étais lui, je négocierais pas contre Ergovic en fin d'année ou début d'année 2023, pardon. Et c'est un combat qu'aurait pu faire Tony Yoka par la suite s'il avait battu Bakole. Ah, merci.
Ouais, mais tu sais qu'il y a toujours l'option qu'une ceinture redevienne vacante. Et c'est pour ça que c'est possible qu'il finalement Ergovic il ait bien sa chance mondiale, mais pour un titre vacant. Ça peut arriver aussi.
Je pense que s'ils lâchent les ceintures, tu vois, je pense qu'ils vont plus lâcher l'IBO par rapport à Joe Joyce. Mais je pense vraiment qu'ils sont dans l'optique de faire l'unification parce que là, la ceinture ring qui a été lâchée par Fury, elle va être au programme de Joshua Uzik. Donc, je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas en tout cas. Mais c'est vrai que pour revenir par rapport aux concurrents de Tony Yoka, je vois par exemple Efe Ajagba qui a aussi eu une défaite, son dernier combat face à Frank Sanchez aux États-Unis. Ivan Dichko qui a eu la médaille de bronze à Rio, aujourd'hui il n'avance pas trop. Donc, il n'est pas forcément en retard. Il est toujours 16e mondial, donc après ça peut toujours aller vite. Surtout, le plus important maintenant, ça va être ce que va faire Top Rank. Ce que va lui mettre Top Rank. Si Top Rank, par exemple, est prêt à lui mettre, je sais pas, en février 2023, un gars du roster qui est vraiment fort, je pense à Ayid Kabayel, par exemple, qui est aussi chez Top Rank, là ça peut être intéressant. Et si Tony gagne.
Ça avait été ordonné par le BU, non, ça, ce combat, Yoka contre Kabayel. C'est ça,
Mais
hein?
comme il avait perdu face à Bakole, ils l'ont retiré. Mais je crois que maintenant, Kabaye n'a plus de challenger, donc il est un peu dans le flou aussi pour la ceinture européenne. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais ça va, pour revenir à Tony, c'est le plus important, c'est comment Top Rank va gérer les choses, clairement. Pour le prochain adversaire, bien le sélectionner aussi. Prendre un petit risque, mais pas forcément, on demande pas forcément à Tony Eka de prendre Otto Wallin, par exemple, ou Frank Sanchez, ou un autre adversaire, mais je me dis, par exemple, pour Tony Eka, ce serait parfait, ça serait par exemple Jerry Forrest, un poids lourd qui est dans le top 40, qui a affronté quand même Carlos Takam, qui a fait un match nul face à Michael Hunter. Donc je me dis, ça peut être intéressant, ça peut être bien pour Tony parce qu'il est à la portée de Tony, mais c'est pas non plus trop, trop, trop dangereux, et ça reste dans l'optique un poids lourd vraiment costaud qui pourrait lui faire travailler un peu les lacunes qui vont porter défaut face à Bakouni. Je me dis Jerry Forrest, une revanche face à Rice par exemple, ou Washington par exemple, Charles Martins, c'est des noms qui peuvent être intéressants éventuellement.
Ouais, carrément, carrément. Tu penses qu'ils vont prendre un Américain?
Ouais, je pense.
Ouais.
Je pense que ça va être un Américain, ouais, je pense.
Je reviens juste sur Mani Nori Boumaye qui nous dit, bien sûr qu'on est lassé, on se pose de réelles questions aujourd'hui de l'avenir de nos boxeurs français, le temps passe, il y a simplement à voir l'âge des champions du monde aujourd'hui dans la catégorie, dans les différentes catégories, sauf les lourds. C'est vrai que j'avais fait un petit point dans ma dernière vidéo. Où je parlais justement de ce que tu disais, quand on compare aux autres gars de la génération Rio, on va dire à peu près, Tony Oka n'est pas vraiment en retard. Mais après, il y a aussi comment on se vend à l'étranger, et je pense que les autres sont quand même plus reconnus dans le monde de la boxe, et notamment au niveau des Anglais et des Américains. Après, si on reste dans notre sujet du jour, la Team Solide, est-ce qu'elle a fait du bien à la boxe en France et pour les Français? Tony Oka, il faut quand même voilà, lui reconnaître que, comme j'ai dit tout à l'heure, une surmédiatisation qui est venue sur la boxe grâce à son nom, toujours des articles sur son nom qui ont été faits régulièrement depuis 6 ans, des salles remplies, des boxeurs qui peuvent boxer en sous-carte, de beaux événements qui peuvent être télévisés. Et ça, c'est aussi grâce à Tony Oka, donc il ne faut pas l'oublier. Je pense que lui, il a apporté beaucoup de positif à la boxe en France sur ces 6 dernières années, et j'espère qu'il va pouvoir se relever et continuer son travail. Un petit dernier mot, on passe à mon top 3.
Alors là, j'ai vu dans le dernier commentaire, donc c'est Fody Joe qui a dit pour un adversaire de Tony Oka, celui qui a perdu contre Dubois pour le titre WBA régulier. Donc je crois que c'est très
Ouais.
vrai. Ça.
Tu veux que j'aille voir?
Alors, il me semble que c'est lui. Je pense très sincèrement que c'est une très mauvaise idée. Pour un
Ouais.
seul cet Américain. Alors, déjà, il est surcoté. Et en plus, cet Américain est sous contrat avec Don King.
Ah,
Donc déjà,
d'accord.
Je crois que Don King, en plus, apparemment, il n'aurait pas payé Danny Dubois pour le championnat du monde
Ouais, c'est ce que j'ai entendu.
juin. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire des affaires avec Don King
Ouais.
en premier combo aux États-Unis. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée.
Bon après, Tony Yoka, au niveau de l'argent, ça va, c'est pas le plus à plaindre.
Ouais, mais est-ce qu'il va y avoir
Hein?
contrats qui vont être bizarres un peu, enfin, Don King, honnêtement, surtout qu'il est complètement cuit maintenant, Don King. Il n'a plus rien à faire dans le monde de la boxe.
Il a une grosse allonge, hein, le mec là, Trevor Bryan. Hein. 2,01 m d'allonge.
Après, si ce combat a lieu, je pense que Tony gagne tranquillement avant la limite dans les 5 premiers rounds, je pense.
Il est cinquième sur les classements des Américains. Ouais, c'est franchement, c'est.
Il est largement au-dessus. C'est pas que Trevor
Ouais,
Bryan est en dessous, c'est que Tony est vraiment au-dessus
ouais.
de ses boxeurs. Ouais, donc c'est un Américain, ça serait bien. Parce qu'après, dans le top 20, dans le top 30, ça va être compliqué d'avoir un boxeur. Surtout que Carlos Takam, il prend le Canadien russe là, en septembre. Donc, ouais, je pense un Américain, Charles Martins, Washington, Jerry Forrest, ça peut être intéressant. Pourquoi pas pour la suite faire le Canadien qui avait battu à Londres, Simon King.
Ouais, en plus là, il prend Naofel Wata, là.
Ouais, c'est un mec en plus qui frappe super fort apparemment, un gros puncher. Donc ça peut être un vrai test aussi pour Tony. On a fait le Wata déjà, un sacré challenge en septembre.
Ouais, déjà, on va voir un peu ce que ça vaut contre Naofel Wata. Hein. Ok, bah écoute, à voir. Moi, je pas encore. Je me pose beaucoup de questions sur le retour de Tony Oka. Ça va être important, ce combat de reprise.
Une préférence pour un adversaire?
Non, pas vraiment, tu vois, vraiment je me pose beaucoup de questions. Parce que vu là la défaite en France devant son public, tu vois, si là il fait son premier combat aux États-Unis, t'arrives dans un certain contexte, tu vois. Avec mentalement, il va falloir s'accrocher, tu vois. Tu t'arrives en étant l'inconnu, tu vois, il va être en sous-carte, beaucoup de pression parce que quand même, bah, il va être pour la première fois un peu tout seul. Et puis il va avoir peur de se dire, peut-être tu viens de prendre une défaite vraiment à la maison qui a fait beaucoup de bruit. T'as quand même une pression, tu vois. Est-ce qu'il faut faire gaffe à pas vouloir trop bien faire, à pas non plus être trop prudent. Tu vois, c'est un retour comme ça se négocie. Mais à un moment, il faut y aller. T'as plus le temps, mon garçon. Tu vois, maintenant c'est là, il faut y aller. Il va falloir se racheter aussi quelque part pour lui et pour son public, pour les deux, tu vois. Et à voir, à voir. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer, tu vois. C'est, pour moi, il y a beaucoup de questions à répondre. Parce qu'il ne s'est toujours pas exprimé. On ne sait pas si est-ce qu'il veut changer de team, d'équipe. Tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas vraiment encore.
Abitbull a dit non, apparemment il devrait rester avec Jerzy Benteur.
Ouais, mais Abitbull, voilà. On sait que c'est compliqué entre Tony Yoka et Abitbull. Il n'y a jamais eu un copain-copain de ouf. Hein.
Ça,
Et
je.
c'est un peu le contrat avec Abitbull qui fait que depuis tant d'années, Yoka, il n'avance pas. Donc, enfin, je veux dire, tu vois. Il est toujours pas aux États-Unis, tout ça. Parce que la copromotion, je parlais de la copromotion avec Top Rank, mais ça fait longtemps qu'elle est signée, cette copromotion. Mais concrètement, on l'a jamais vu. Il n'y a jamais vraiment une promotion de Tony Oka par Top Rank. C'est très compliqué. C'est cadenassé avec Canal+, qui ne veut pas du tout faire d'autres combats que Tony Oka. Donc tout ça, c'est très compliqué. Moi, je me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe en coulisses.
Alors, en coulisses, c'est vrai que quand Tony avait accepté face à Ergovic au début, normalement, c'était Eliane qui avait dit qu'il allait négocier avec Top Rank pour la demi-finale mondiale Ergovic-Yoka. Donc, je pense surtout que Abitbull, il est surtout là en tant que, plutôt que manager et promoteur en France. Et je pense que s'il y a vraiment des grosses choses aux États-Unis à faire, je pense qu'il va s'écarter. Il va plutôt être dans un rôle de manager. Mais après, aux États-Unis, je sais qu'il y a James Prince aussi qui est le manager de Tony Yoka. C'était le manager de Shakur Stevenson qui a travaillé aussi avec Floyd Mayweather, qui travaille aussi avec Drake dans l'industrie du rap. Donc c'est un gars vraiment influent. Donc ouais, on sait pas trop. Et Tony s'est jamais vraiment exprimé même avant sur son contrat avec Canal, sur les coulisses. Donc on sait pas trop. C'est un peu le flou. Après, le seul point positif de la promotion, c'est qu'il a été diffusé sur ESPN à partir du combat face à Diopa. Il y avait toujours une diffusion aux États-Unis. Donc c'est vrai. Après, est-ce que Tony il n'a pas le droit de délivrer certaines choses, d'en parler, on ne sait pas trop. En tout
Mais
cas,
bien sûr, tu peux pas. Il y a des choses que
si,
tu peux pas dire.
c'est à lui de voir, en tout cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sa carrière, c'est vraiment qu'il soit le premier Français champion du monde chez les lourds. On y croit. Moi, j'y crois personnellement toujours, même s'il y a eu
Ah oui.
ce couac-là face à Bacolé, mais il a toutes les armes pour. Techniquement, c'est super fort. La préparation physique pour tenir, encaisser pendant 30 minutes les patates de Bacolé, il faut être au top. Après, il y a peut-être plus ce défaut-là sur la puissance qui a manqué, je pense, à son dernier combat. Mais sinon, à suivre. C'est vrai que c'est un peu flou, Tony Yoka, en ce moment.
C'est ça qui est compliqué parce que moi je veux bien, tu pars aux États-Unis, tu fais un combat contre un Américain, mais déjà on sait même pas si ça va se faire concrètement parce que ce qu'il dit à l'équipe c'est bien gentil, mais on sait pas si ça va se faire. Et surtout, c'est dans quelles conditions tu pars parce que si tu pars en sachant que tu es toujours coincé avec un contrat qui ne te va pas, qui te convient pas, qui te rend fou, c'est pas pareil que si tu y vas en sachant que ça y est, tu es avec Top Rank, tu es promu par Top Rank, ils vont tu vois, et ça compte beaucoup dans ton état mental de comment tu arrives là-bas. Et ça peut vraiment lui faire du mal.
Ça, c'est sûr. Après, je crois que la rupture du contrat n'est pas possible, à mon avis, par rapport aux sommes d'argent, montant, par rapport à l'assurance. Je crois que c'est pas possible. Normalement, je
Moi,
crois
je
qu'il
crois
y aura
qu'il avait un nombre de combats. Si j'ai bien compris, c'était un nombre de combats qu'il doit honorer.
encore 3 combats. C'est 15 combats sur son contrat, normalement. Donc, ça serait bien qu'il fasse aux États-Unis. S'il peut, ça serait bien que Canal le laisse un peu tranquille. Parce que c'est pas forcément une bonne idée de le refaire venir en France. Ça va être compliqué, je pense, de le refaire reboxer tout de suite en
Alors,
France. Mais...
c'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne idée de faire revenir en France, je suis d'accord avec toi, mais un truc que je n'ai pas dit dans la vidéo que j'avais faite, où je parle justement de cette info que Tony Oka va partir aux États-Unis, j'ai quand même un peu les boules que son dernier combat en France, ça soit une défaite. Tu vois, j'aurais un petit peu ce truc de ah putain, c'est dommage qu'il parte sur ça.
C'est dommage, mais c'était un signe. C'est la défaite. Et
Clairement.
maintenant, il faut y aller aux États-Unis. Le public,
Clairement.
ils sont trop durs avec toi. Donc, ils l'ont si à la fin, c'était pas forcément très, très correct parce que on aurait dû le féliciter par rapport à son courage, quand même, par rapport à sa performance, même si on aurait préféré qu'il gagne. Mais le contexte, c'est compliqué, tu sais. Se faire cueillir à froid dès le début, les patates de Bacolé, surtout que Bacolé, personne ne voulait le prendre. Et même au jour d'aujourd'hui, personne ne devait encore le prendre, Bacolé. Donc, on a pas d'infos sur la suite pour Bacolé. Il risque d'être coincé. Donc c'est un peu compliqué, ouais, en ce moment. C'est un peu
C'est
compliqué.
vrai que là, après ça, plus personne ne va vouloir le prendre, le bacolé. Allez, je passe à mon top 3. Donc, j'ai mis ensuite Souleymane Cissokho, qui est aujourd'hui 20e mondial chez les Super Walter. Hein, je crois que c'est ça. Il est en Super Walter, Cissokho.
Ouais, il devrait descendre en Walter bientôt, normalement.
Il va descendre. Ouais, on va en parler. Donc, il a 31 ans. Il fait bronze au JO de Rio. Aujourd'hui, il a 15 victoires, 9 remportées par KO. Il a été champion de France en 2019. Alors, Cissokho, comme tu le dis, il a pris cette décision de descendre pour Walter. Alors, un petit mot sur Cissokho, qu'est-ce que tu en penses?
Alors déjà, son parcours, il est au-dessus de Tony Oka dans le classement, je suis d'accord avec toi. Alors, ses adversaires sont pas forcément au-dessus de Tony Oka, mais ce qui a été vraiment bénéfique pour Souleymane Cissokho, c'est qu'il ait pu boxer aux États-Unis. Matchroom, DAZN, etc., dans des grosses cartes, son dernier combat à San Diego. Avant, bon, il avait boxé à Roland-Garros, mais son avant-avant-dernier combat, c'était en sous-carte de Billy Joe Saunders face à Canelo, dans un stade de 70 000 personnes. Il a boxé, je crois, Estrada Chocolatito, c'est ça? Ouais.
Exactement. Et Joshua aussi, il a fait deux fois en sous-carte de Joshua, je crois.
Au Madison Square Garden. Donc, Souleymane Cissokho, très bien. Il est classé 6e WBA et je crois 11e WBC chez les Super Walter. Donc, il devait boxer la semaine prochaine dans une très belle réunion face à. On ne connaît pas l'adversaire, mais la réunion de Usyk 2 face à Joshua. Donc, il a eu cette petite blessure à la main. J'ai cru comprendre qu'il pourrait boxer en fin d'année, normalement. Il pourrait quand même boxer en octobre. Surtout aux États-Unis ou en Angleterre pour monter dans les classements. Mais Souleymane Cissokho, il est là, il a fait 15 combats, il est bien classé. Maintenant, c'est le moment de faire un gros combat. Quitte à faire une demi-finale mondiale maintenant, c'est le moment maintenant. Il a fait, lui, à l'entraînement, il s'entraîne quand même avec les meilleurs. Terence Crawford, Amir Khan, il a aussi tourné, je crois, avec Julian Williams, qui a été champion du monde unifié chez le Super Walter. Il s'entraîne avec André Berto. Donc, il s'entraîne vraiment avec du lourd. Donc, là maintenant, il a l'exposition internationale, il a un gros promoteur, il a le management aussi de Anthony Joshua, 258 Management. Donc, il progresse tout le temps à l'entraînement. Surtout qu'en France, il s'entraîne aussi avec Ali Oubali quand il revient. Ali Oubali, Nordine Oubali. Je crois aussi qu'il a un très bon préparateur physique en France, Rémi Lancoux. Il s'entraîne surtout par rapport à deux disciplines des sports de combat. Donc, il a vraiment tout en œuvre pour faire des grosses performances. Donc là, maintenant, on a vraiment envie de le voir step up et faire un championnat du monde avant l'été 2023. Là, je pense qu'il faut y aller clairement.
Bah écoute, tu as tout résumé. Excellent boxeur, très très bon choix de carrière, choix de. Bah lui, pour le coup, les promoteurs qu'il a choisis, il a été très intelligent. Ils l'ont placé dans des cartes où, bah, quand tu es en direct sur DAZN, je regardais encore un combat de lui, bah, son dernier combat, là, je le regardais sur DAZN tout à l'heure avant qu'on passe le podcast. Et quand tu vois les commentateurs américains qui parlent de lui, qui disent qui font des louanges sur lui, c'est comme ça que tu te vends auprès du public américain. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est comme ça que tu te vends. C'est la meilleure façon de te vendre, être en sous-carte de gros événements. C'est la meilleure moyen de faire bonne impression auprès du public américain parce que c'est eux qu'il faut aller convaincre, c'est eux qu'il faut aller charmer. Donc, non, non, super choix. Et comme tu le dis, maintenant, il faut qu'il aille taper un nom, il faut qu'il aille. Voilà, il est très talentueux, il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il y aille, quoi.
Ah, il en a envie. Après, je pense qu'il est aussi pas mal esquivé dans la catégorie. Mais je pense que, par exemple, chez les Walters, s'il descend, il prendrait un mec comme Keith Thurman, par exemple. Je pense qu'il n'a rien à lui envier.
Oh ouais, d'accord.
C'est les combats, on va dire. Il n'est pas forcément favori, mais c'est un combat où il peut largement gagner. Il a les armes pour, en tout cas. Et même s'il perdait, ça serait pas forcément la fin du monde, parce qu'on a vu, par exemple, sur le modèle anglais, même si Daniel Dubois et chez Frank Warren, il avait perdu face à Joe Joyce, le championnat d'Europe. Et maintenant, il est champion du monde WBA régulier, après 3 combats. Il pourrait en plus affronter le vainqueur de Joshua Usyk 2, pour un mandat doré WBA éventuellement. Souleymane Cissokho, non, très bien. On a vraiment envie de le voir step up. C'est vraiment un plaisir de le voir boxer. Il est vraiment élégant. À voir, il sait tout faire de toute façon, il est super fort et on a envie de le voir.
En tout cas, on lui souhaite le meilleur et je pense que c'est une bonne décision d'être descendu de catégorie parce que c'est vrai qu'il était il était un petit peu léger par rapport au gabarit des Super Walter. Donc je pense qu'il a bien fait. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas trop cette culture du cutting. Donc parfois, arrivé au niveau mondial, on a l'impression que les boxeurs français, ils sont tout petits par rapport aux boxeurs anglo-saxons. Donc c'est peut-être une bonne chose que maintenant, il a vraiment un staff professionnel autour de lui, il va pouvoir mieux gérer ses régimes. Donc je pense que c'est une bonne chose. Là, il y a Fodier qui nous propose Ennis, Conor Benn, Virgil Ortiz. Ça pique, c'est vrai que faut faire attention parce que c'est une génération dorée et exceptionnelle. Mais bon, à un moment donné, il faut y aller, quoi. C'est sûr,
Ça pique sous les mains de Cissokho, je crois.
hein. Ouais.
Il mettait déjà les gants avec Michel Soro, je crois, pour préparer son championnat de France en 2019 à l'INSEP. Donc après, je ne sais pas du tout ce que c'est donné. De toute façon, ça reste en sparring. Mais il s'entraîne avec Terence Crawford, avec les meilleurs au monde. Il est aussi avec Virgil Hunter aux États-Unis, avec Tony Oka. J'ai vraiment envie de le voir faire un gros, gros combat. Peut-être d'ici la fin d'année, peut-être.
Ouais, pourquoi pas. À voir sa main, comment ça évolue, mais pourquoi pas. On passe à la deuxième position. Il en reste deux. Tu penses que j'ai mis en deuxième. Tu penses que j'ai mis qui en deuxième position?
Je pense que c'est Mathieu Bonaly qui est en deuxième position. Et
Non.
non, c'est l'inverse.
C'est Christian Billy.
Ok.
C'est Christian Billy parce que, alors, Mathieu Bodarlic, il est passé premier parce qu'il a signé ce contrat-là pour ce combat ce week-end. Donc, c'est ce qui explique parce que pour moi, c'est le seul qui, ça y est, va avoir le combat contre une élite mondiale, ce que personne n'a eu jusque-là. Christian Billy, très beau parcours, il a 27 ans, hein, il est jeune, hein, 21 victoires, 19 remportées par KO, donc le ratio de KO assez important. Il est 12e mondial aujourd'hui sur Boxrec, mais il est dans le top 10 ring. Christian Billy, alors il a quand même mis des beaux noms à son tableau de chasse, hein. Alors est-ce qu'il est évité, il est fui dans cette catégorie des super moyens? Moi, j'aimerais bien le voir aller accrocher, tu vois, genre un ancien champion du monde, un petit nom connu là dans la catégorie des super moyens. Il y a de quoi faire en plus. C'est vrai que le problème qu'il a, c'est qu'il y en a la catégorie qui est aujourd'hui gouvernée par Canelo. Et c'est vrai que Canelo, en arrivant dans cette catégorie, il a fait rehausser le niveau des super moyens qui, il y a encore quelques années, c'était vraiment pas ouf. Mais Christian Billy, c'était normalement plutôt un poids moyen qui a décidé d'aller en super moyen parce qu'il était plus à l'aise avec son poids dans cette catégorie-là. Il a choisi assez tôt de partir s'expatrier au Canada. Je pense que ça a été une bonne chose pour lui parce que il a bien su gérer entre venir quand même faire des combats en France, donc continuer à profiter de cette hype, voilà, j'ai envie de dire cette lumière qu'il y avait autour de la génération Rio Team Solide. Surtout que Team Solide, ça vient de lui, le nom Solide. Et quand même, faire un petit pas du côté marché américain. Donc, Canada, il est resté dans un pays francophone, mais voilà, aller faire un petit pas là-bas et pouvoir commencer à se faire des contacts. Et je pense qu'il a fait un bon choix. Dis-moi un peu ce que tu penses du parcours de Mbili.
Ouais, excellent. Il est aussi classé troisième WBC. Donc, sachant qu'il combat en septembre et que son clan voudrait le faire combattre si tout va bien en décembre. Donc, il pourrait être classé d'ici la fin d'année numéro 1 WBC. Et donc, pourquoi pas, c'est vrai que le champion du monde WBC par intérim de la catégorie, c'est David Benavidez. Donc, est-ce qu'on pourrait pas forcément, pourquoi pas avoir cet affrontement en juin 2023 ou mai 2023, par exemple, surtout si Canelo monte chez les Milo pour les titres vacants. Donc, pourquoi pas? Non, mais ça reste forcément un bilan qui est excellent. 21 combats, c'est le boxeur le plus actif de la Team Solide. On l'a vu boxer en France aussi, dans les réunions de Brémation. Après, c'est vrai que ses adversaires, c'est vrai qu'il a quand même boxé Najib Mohamedi et Reynald Ellis. Même le prochain adversaire, l'américain, qui va prendre Deontay Ward, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est pas du tout top 20 ou top 10. Mais je pense que sur la stratégie du promoteur américain avec qui il est, Eyes of Tiger, c'est surtout d'être challenger officiel maintenant, de gravir les échelons. Et on voit que son promoteur a vraiment visiblement une grosse influence auprès de la WBC parce qu'il gravit dans les échelons petit à petit. Et surtout qu'en plus, il combat aussi pour un titre WBA continental aussi en septembre. Donc ils vont aussi se classer en WBA. Donc à un moment donné, il y aura un mandatory qui va avoir lieu, je pense, 2023, si tout se passe bien, si tout se passe bien, pardon, pour Christian, pour ses combats. Lui aussi, on a vraiment envie de le voir taper un gros nom. J'ai cité David Benavidez, c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir. Après, je sais pas si toi, tu as envie de le voir face à un autre boxeur, Caleb Plant, par exemple, ou je sais pas si tu as d'autres noms. Darlan.
Moi j'aurais bien vu un Anthony Durell, tu vois, par exemple,
Ouais.
histoire de se faire les dents sur. Je pensais plutôt à cette génération-là de boxeurs, donc vraiment la génération juste avant. Caleb Plant, ouais, j'aurais préféré d'abord le voir passer cette étape-là avant de prendre un Caleb Plant. Caleb Plant, surtout que, à mon avis, c'est le profil chiant pour un Mbili.
Ouais, bien
Tu vois?
technique, bravo.
Voilà, bien technique, il bouge beaucoup. J'ai peur que Mbili soit un peu à lui courir après. Après Mbili, il a de quoi l'éteindre. Hein. Il a de quoi l'éteindre dans les poings. Voilà.
Non, ouais.
Donc, c'est pas qu'il me fasse peur, Caleb Plant, mais c'est juste que c'est le profil chiant pour Mbili. Voilà, c'est juste ça. C'est vraiment le profil chiant. Mais après, c'est sûr que si tu tapes Caleb Plant, c'est un joli nom que tu mets. Voilà. Mais aujourd'hui, Mbili, il faut qu'il cherche des titres. Tu vois. Là, il va vraiment être. Il va chercher un titre. Il faut qu'il aille chercher un titre. Il faut qu'il y ait un risque, mais un risque qu'il y a un titre derrière. Donc, je pense que c'est vraiment là ce qu'ils doivent aller chercher.
Malheureusement, ce qui m'embête, c'est que Christian Mbili, le vrai boxeur, c'est-à-dire du top 5 ou du top 10 qu'il va prendre, ce sera à mon avis lors du championnat du monde. Parce qu'il va prendre des combats pour grappiller. Et donc, c'est un peu risqué quand même. Après, c'est un peu l'assurance d'avoir un championnat du monde, d'être mandatory, etc. Mais c'est vrai que le jour où ça arrive, il ne faut pas être surpris dès les premiers rounds. Il faut vraiment que Christian soit vraiment prêt, qu'il fasse des sparring avec les meilleurs, qu'il fasse même des sparring avec. Je sais qu'il est dans la même salle qu'Artur Beterbiev. Donc, quitte à faire des sparring Beterbiev avec les meilleurs, que ce soit en moyen, super moyen et mi-lourd. Donc c'est vrai que c'est un peu risqué cette stratégie-là, mais pour l'instant elle fonctionne parce que le numéro 3 du PC.
Le vrai hold-up pour Mbili, c'est de prendre Edgar Berlanga.
Ouais.
Tu prends Edgar Berlanga, c'est le nom, franchement, c'est un nom aux États-Unis, il remplit des salles de ouf à New York et tout, tu vois. Et si tu arrives à faire la première défaite de Berlanga, tout le monde va parler de toi.
Ouais. Ça serait vraiment super. Après, là où j'y crois pas trop, c'est le truc, c'est-à-dire que Christian Mbili a son promoteur canadien, il se dirige vers WBC et Berlanga et Top Rank, ils vont. Je pense que le plan pour les super moyens qui arrivent, c'est d'attendre que Canelo il libère toutes les ceintures, qu'il se casse chez les mi-lourds et que chacun fasse un titre, c'est-à-dire comme un peu chez les lourds, Joe Joyce en WBA, Ergovic en IBF, Danny Dubois en WBA, Joe Joyce en WBO, WBC peut-être Andy Ruiz ou Wilder, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que c'est un peu pareil pour les super moyens, mais c'est vrai que c'est un combat qu'on aimerait voir, ça c'est sûr. En plus, ça serait un truc à Vegas ou à New York, un truc Top Rank. Ça, franchement, je pense que Christian, il irait aussi s'il le voudrait, si on lui proposait ce genre de combat. Son promoteur, je ne sais pas forcément, parce que le promoteur, son intérêt, c'est de le mettre numéro 1 WBC. Donc, ouais, ça c'est un combat, franchement, qui. Surtout que Christian, je pense que Christian a de quoi gagner face à Berlanga, je pense qu'il a franchement.
Par contre, il faut gagner avant la limite. Jamais ils te donneront la victoire au point à New York devant Berlanga. Jamais.
Avec Christian, c'est rarement la limite, tu vois.
Ouais, mais bon, tu vois, forcément, au bout d'un moment, Christian, il va arriver dans des combats où il va falloir aussi qu'il gagne des rounds. Et c'est sûr qu'un Berlanga, si tu le tapes pas avant la limite, ils vont pas te donner la victoire sur son terrain, quoi. Ça va être compliqué. Mais voilà, peut-être de prendre un boxeur de ta génération comme ça, c'est le hold-up. Ou alors, ben, il faut chercher voilà, un ancien nom qui a encore un peu de prestige, histoire qu'on continue à bien parler de toi. Après, il y est, hein, franchement, il est aux portes du top 5. Hein, et, tu vois, maintenant, c'est celui qui est le plus proche. Hein.
Je sais pas ce que tu en penses d'un affrontement avec Kevin et Lesa Joe, par exemple. Tous les deux dans la même caté. J'ai pas envie de le voir parce que je préfère que chacun trace sa route.
Ben, c'est ça. En fait, quel intérêt pour eux aujourd'hui de le faire? Parce que eux, en fait, les combats franco-français, moi, je suis pour. Mais si ça fait évoluer les deux boxeurs, tu vois à quel combat je pensais? Franchement, Sissoko, Shikitu,
Ouais.
belle affiche, tu vois. Belle affiche, boum, ça fait de l'engouement. Mais Kevin Lesadjo, Mbili, aujourd'hui, à qui ça sert? Je ne sais pas. Bon, ça va faire du spectacle, c'est sûr. Moi, mais je ne dis pas non hein, s'ils veulent le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les deux, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à se croiser?
Après, je verrai un truc, tu sais, en mode WBC Silver, demi-finale mondiale en attendant le championnat du monde, parce que Elisa Joe, je crois qu'il est classé 15e WBC. Je crois que son promoteur, le nouveau promoteur de Michel Soro, Goulamirian et Elisa Joe, il souhaite vraiment organiser en France pour redynamiser un peu les événements, parce qu'il n'y a plus la carrière, c'est un peu confus maintenant. C'est vrai que personnellement, j'ai pas envie de le voir, personnellement, ce combat-là. Je préfère voir Christian Billy, ouais, face à Berlanga, face à Chouguinov, face à. Face à Billy Joe Saunders, par exemple. Parce que je pense que Billy Joe Saunders, c'est plus prenable que Callum Plant, je pense, par rapport au profil de Christian. Mais ouais, donc, je pense que Christian, maintenant, c'est étape après étape. Faut voir d'abord son combat début septembre, et puis après, peut-être l'actualisation des classements WBC. Ce que son promoteur, comment ils vont négocier, et puis surtout, ce que va faire Canelo, parce que Canelo, il nous embête un peu, à bloquer un peu toutes les ceintures, et dans la catégorie des super moyens.
En vrai, Mbili Ndam, ça aurait été cool quand même.
Ouais, après, ouais, mais sur la bourse, ils n'étaient pas du tout sur la bourse, l'enjeu. Après, Hassan, il est redescendu en moyen maintenant, en moyen. Je
Ouais, mais
pense.
de faire un combat de MMA et tout, je sais pas où il en est, Hassan Ndam, faudrait que je me renseigne.
Mais il.
Bref.
Oh ouais,
Ouais.
il. Non, on n'a pas trop d'infos. Ouais. On n'a pas trop.
J'ai pas entendu, là, Nicolas, excuse-moi.
Pas trop d'infos sur Hassan Ndam en ce moment.
Ah ouais, faudrait que je vais essayer d'aller chercher des infos. Mais bon, passons à notre numéro 1, Mathieu Bonardic. Est-ce que tu aurais mis le classement un peu différemment?
Non, personnellement, j'aurais plus changé, tu vois, Mathieu Baudalé, j'aurais mis deuxième et Christian premier. Parce qu'il y a une petite défaite pour Mathieu, même si c'est un accident. Après, certes, il fait la demi-finale mondiale, mais Christian, il a boxé beaucoup au Canada, il a boxé un petit peu aux États-Unis, il est classé ring dans le top 5. Il est. Même si Mathieu Baudalé qui est très bien classé aussi, mais je pense que par rapport à l'évolution.
Ouais, mais Bonardic, il a un titre BU, hein,
Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
qui est, voilà, c'est le plus beau titre de tous ceux qu'on a dit là, c'est lui qui a le plus beau titre.
Ouais, mais après, il y a l'activité de Christian aussi en 6 ans, faire 21 combats ou 22 combats.
Je suis d'accord, je suis
Et
d'accord.
c'est vraiment serré. C'est comme on aurait pu mettre Sissoko un peu plus haut. Ça dépend aussi, ça se joue vraiment à des détails. Je pense que si Christian avait affronté un adversaire beaucoup plus fort à son dernier combat, on respecte bien sûr Najib Mohamedi, mais si Christian avait affronté par exemple à la top 15, ça aurait été peut-être un peu différent, je pense.
Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, donc, ce qu'on va faire, là, on va parler de Mathieu Bédarlyk. Donc, je donne vite fait son palmarès. Donc, 33 ans aujourd'hui, 21 victoires, 12 remportées par KO, une défaite. Il est 11e aujourd'hui Boxrec. Bon, alors lui, il faut savoir qu'il a fait ses débuts professionnels en 2011, d'accord? Donc, c'est plus tôt que tous les autres parce qu'il avait commencé à boxer avant les JO. Puis, il s'est présenté aux JO. Il a remporté une médaille de bronze aux JO. Donc, je rappelle que Christian Billy n'a pas gagné de médaille. Donc, lui, moi, je trouve qu'il a très bien géré l'après-JO. Très, très bien. L'un des meilleurs. Et Mathieu Bonnardic, pareil, bah, lui, comme il a eu la médaille, ça lui a permis aussi de mettre un peu de visibilité sur son nom. Il est devenu champion de France en 2018, champion EBU en 2021. Et là, il va avoir le combat de sa vie contre Callum Smith. Callum Smith, 32 ans, 28 victoires, 20 remportées par KO, une défaite contre Canelo. Et il est classé quatrième des mi-lourds. Alors, on va parler un peu de ce combat-là. Avant, on va boucler sur le sujet de la team solide, donc échec ou réussite. La conclusion sera sur Mathieu Bonnerlic, qui est donc le premier qui a une vraie échéance. Voilà, ça va être le combat référence de sa carrière, qui gagne ou qui perde. Ça sera le combat référence de sa carrière parce qu'il prend un ex-champion qui mettait tout le monde KO, un monstre, et qui là monte chez les milours pour faire très très mal aussi. Hein. Il ne monte pas pour rigoler, il ne monte pas pour fin de carrière retraite. Hein. Non, non, non. Il vient pour chercher des ceintures. Donc, on va parler de ce combat-là dans une seconde partie que je mettrai à part. D'accord? Comme ça, au moins, les gens auront la partie sur vraiment la team solide. Et là, on va conclure. Je vais te laisser un peu conclure. Nicolas, tu vas donc me dire un peu ce que tu penses, ce que ça a été une réussite ou un échec au final, après tout ce qu'on a dit. Et juste après, je coupe partie 2 et on fait l'avant-combat. OK?
Ok.
Allez, conclusion sur Mathieu Bodarlic. Qu'est-ce que tu penses de cette team solide 6 ans après?
Sur la team solide, je dirais que forcément, il y a eu de belles choses, de beaux engouements, de vraiment de belles choses qui ont été montrées sur le plan national et international aussi pour les boxeurs qu'on a cités qui ont boxé aux États-Unis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu justement jusqu'ici de gros combats, de grosses victoires. Personne, jusqu'à Mathieu Bodarlic, n'a fait de demi-finale mondiale. Personne n'a vraiment eu un gros adversaire à part Tony Yoka face à Martin Bacolet, et ça s'est pas forcément très bien passé pour le boxeur français. Donc après, je pense que on est forcément déçu sur les délais, mais on n'est pas non plus en retard. Je pense à Souleymane Sokho qui est toujours dans les temps, à Estelle Mosley qui a quand même un titre mineur et ça peut aller très vite pour elle. Elle peut très bien compter demain, on peut lui proposer Katie Taylor pour la fin d'année, par exemple. Je pense à Christian Billy, on l'a dit, il est vraiment dans le coup. Il y a des boxeurs comme Tony Yoka, comme Eli Conky. Certes, ils ont une défaite. Maintenant, ils sont toujours là dans les classements. Ils sont pas non plus trop en retard. Ils ont quand même une belle base. Donc, tout n'est pas jeté à la poubelle. Même s'il y a eu une défaite, ils ont quand même eu de belles choses. On a vu un titre de l'Union européenne pour les deux. Sofiane Noumia, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant pour avoir un avis plus poussé sur la question. Mais lui aussi, il va faire de grandes, grandes choses quand il sera prêt. J'en suis convaincu. Je pense qu'il a rien à envier aux boxeurs actuels de la catégorie sur le plan européen en tout cas. Donc pour l'instant oui on est un petit peu déçu sur la team solide mais il faut pas baisser les bras. Ça c'est un petit peu le public français. À chaque fois qu'on a un boxeur qui perd, ça y est, c'est le plus nul, et quand il gagne, ça y est, c'est le meilleur. C'est un peu comme Cyril Gane en MMA. Tout le monde disait qu'il était imbattable, il a perdu face à Francis Ngannou. Ça y est, Cyril Gane, il est nul. Donc je pense qu'il faut leur laisser le temps maintenant. Et les prochains mois vont vraiment être déterminants, aussi bien sur le plan pugilistique, sur leur combat, par exemple. Je pense à Tony Yoka, comment il va revenir, par exemple. Contre qui, et aussi sur le plan de la gestion de leur carrière, c'est-à-dire sur les bons choix à faire, toujours sur Tony Hooker, le contrat Canal, les États-Unis, Souleymane Sissoko, choisir qui comme adversaire, descendre chez les Walters, mais est-ce que tout de suite commencer par un gros combat chez les Walters ou pas? Christian Billy, est-ce qu'il faudrait pas aussi titiller un Berlanga, quitte à prendre des risques, pour s'assurer tout de suite un championnat du monde après? Donc je pense que l'avenir maintenant, répondre à la question, ça c'est sûr, mais on en saura plus dans les prochains mois, dans les 2-3 prochains mois. Là, on pourra dire si c'est un échec ou pas. La team solide, mais sans la team solide, il n'y a pas de boxe à la télévision en France, il n'y a pas de gala boxe en France, donc il faut quand même être reconnaissant. Je pense là-dessus.
Ben écoute, j'en tire la même conclusion que toi. C'est vrai que j'ai eu une petite période où je me suis dit, ah, c'est quand même un échec cette team solide. Au final, il y en a plusieurs qui ont connu la défaite. Il n'y a toujours pas un qui a eu un titre pour championnat du monde. Tu vois, c'est compliqué. Ça rame, ça rame. C'est vrai, ça ramait pas mal. Et puis au final, je me dis, malgré tout, vu de quoi on partait en 2015, hein, faut pas oublier de quoi on partait, un désert de la boxe en France avec les boxeurs français. Et je me dis quand même ce qu'ils ont apporté. L'engouement qu'ils ont apporté. Aujourd'hui, moi, si j'ai une chaîne YouTube qui peut parler que de boxe, bah, c'est aussi parce qu'on a eu des noms que les Français connaissaient. Une nouvelle génération s'est mise à connaître et à suivre la boxe pour ces noms-là. Et c'était des Français, et enfin, et c'est des Français. Donc, même si aucun d'eux n'obtient un titre mondial, ils ont quand même apporté un engouement qui a fait du bien, qui a apporté une vraie émulation, voilà, une vraie stimulation. Les boxeurs parler d'eux, voilà, le circuit de la boxe parler d'eux, ça a pu permettre à des boxeurs de manger, de combattre, donc c'est cool. Et donc je pense qu'il faut quand même rester sur cette note positive, et maintenant on espère qu'il y en a au moins un qui obtiendra un titre de champion du monde, ce serait beau.
Oh, c'est largement possible, ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont les armes pour, en tout cas, maintenant. Il faudrait être prêt le jour J, clairement. Clairement. Sur 12 rondes, de A à Z.
Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, en qui vous croyez le plus de tous ces noms qu'on a donnés. Et puis, on se retrouve demain pour la seconde partie avec Nicolas. N'hésitez pas à aller sur sa page Instagram qui est très très bien faite. Je vous dis à la prochaine. Writing.